y a un an, le 5 juillet 2010, la mort de Mustapha Sarr, jeune pêcheur de Sumbedjoun, tué par un agent des eaux et forêts. Aujourd'hui à Sumbedjoun, on commémore cette date du 5 juillet. En ligne avec nous, Adama Thiam, le président du regroupement des jeunes pêcheurs de Sumbedjoun. Bonjour.
Ouais, bonjour, Barbara.
Vous organisez là déjà une séance de prière.
Oui, ouais. Ouais, c'est le jour qu'on a tué Mustapha Sarr. C'est pourquoi, durant la journée, on fait le matin, on fait des récits du Coran. Après, le soir, on va faire des récits du Coran encore le soir encore.
Et vous avez décidé aussi de ne pas aller en mer. Hein, vous n'allez pas pêcher ce matin.
Non, on a donné un mot d'ordre à Sumbedjoun. Aucun pire ne partira pas en mer jusqu'à demain.
On sait qu'aussi que le garde-côte qui avait tué Mustapha Sarr a été arrêté, puis il a bénéficié d'une liberté provisoire. Un an après, votre position sur cette affaire?
Tu sais, c'est ça qui lui fait mal. Parce qu'on a tué Mustapha Sarr. Le garde-forêt qui a tué Mustapha Sarr, on l'a laissé passer. Tu as compris? Il y a une de nos pêcheurs qu'on a arrêté depuis le 5 juillet passé, l'an 2010. On ne l'a pas laissé. Le garde côtier qui a tué Mustapha Sarr, on l'a laissé passer. C'est ça que nous fait mal à Sumbedjoun. C'est pourquoi le jour là, on le respecte. Le combat qu'on menait depuis le mois de juillet passé, on le mène jusqu'à présent.
Merci. Adama Thiam, vous êtes le président du regroupement des jeunes pêcheurs de Sumbedjoun. Vous réagissez là à l'instant sur cet anniversaire, le premier, après la mort de Mustapha Sarr, jeune pêcheur de Sumbedjoun, tué près des côtes de Dakar par un agent des eaux et forêts. La mort de Malik Ba Sangalkam, il y a quelques semaines, c'était le 31 mai dernier. Du côté de la justice, ça bouge un peu. Le journal L'Observateur annonce que l'épouse de Malik Ba sera auditionnée demain par le doyen du juge. La justice perturbée ce matin par une nouvelle grève décrétée par le site Juste. Le syndicat des travailleurs de la justice a décidé d'aller en grève de 3 jours. Décision qui fait suite à l'échec des négociations avec le ministère de tutelle. Les deux parties ne sont pas d'accord sur les pensions de salaire, la formation des gendarmes ou des agents pénitentiaires pour en faire des greffiers. Tout cela, le site Juste n'est pas d'accord. Alors, clash avec ministère de la Justice. Écoutez le porte-parole du syndicat des travailleurs de la justice, Pape Sidilo.
La chose principale qui est à retenir, c'est la création ou la convocation de la commission technique devant réfléchir sur les revendications du CIDJUST pour le lundi prochain, 11 à 16 heures au ministère de la fonction publique. Ceci pour donner une réponse définitive du gouvernement sur cette question. Honnêtement, il est à déplorer de toute façon les deux points de choquement qui constituent la ponction qui a été effectuée sur les salaires et dont la demande de restitution et d'arrêt a été rejetée par M. Fidjansi, qui nous a répondu qu'en l'état, il ne pouvait pas satisfaire à cette demande-là. Il ne peut pas dire oui ou non, il pouvait satisfaire à cette demande. Aussi, la question de la formation des jeunes dans l'administration est venue aussi. Si nous demandons l'arrêt de cette formation-là, c'est moins par crainte de remplacement par ces gens-là, mais c'est pour arrêter l'effort de précarisation de nos professions que le ministère a commencé et qui peut ternir l'image de la justice. Voilà ce qu'on a demandé au gouvernement. Mais malheureusement, c'est en ce moment qu'il ne pouvait pas dire oui ou non s'il allait donner une suite favorable à nos demandes. C'est pour cela qu'on s'est retiré tout de suite en bureau exécutif national, puisque un premier plan d'action a été édicté qui devait continuer jusqu'à vendredi. On a décidé de continuer le plan d'action, d'aller en grève jeudi, mercredi et demain mardi, et convoquer toutes les cellules régionales en assemblée générale sectorielle le jeudi pour que celles-ci nous donnent leur décision définitive sur la continuation ou sur l'arrêt du mouvement. Car le bureau exécutif national ne peut pas décider, ce sont les cellules régionales syndicales qui décident.
La rencontre d'hier était une initiative du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Et le ministère de la Justice précise que ce n'était pas une séance de négociation. Les services de Cheikh Tidiane qui déclarent ensuite que le gouvernement ne peut pas satisfaire financièrement pour le moment les revendications du Sud Juste. Le chargé de la communication du ministère de la Justice, Marcel Mendy.
Il n'y a que à l'impossible, nul n'est tenu. Des revendications ont été articulées par le Sud Juste dans sa plateforme revendicative, passez-moi l'expression, qui ont tourné autour du statut, du fonds commun des greffes, du privilège de juridiction et du régime indemnitaire comprenant à la fois l'indemnité de logement et l'indemnité de participation à la judicature. Alors, On conviendrait à dire que des 5 revendications formulées par le CIGIS, les 4 ont été satisfaites par le gouvernement. Je n'entrerai pas dans le détail. Pour ce qui est maintenant de l'indemnité de participation à la judicature, dès l'entame, le gouvernement avait clairement exprimé son impossibilité de répondre à cette revendication dans l'immédiat, en se réservant la possibilité de lui trouver une réponse satisfaisante quand le moment sera opportun. Et alors, le CIGIS avait bel et bien accepté cette position du gouvernement et l'a manifestée à travers la signature du protocole d'accord en date du 5 juin 2009. Alors, aujourd'hui, qu'il vient reformuler en quelque sorte cette revendication, mais de grâce acceptent du moins que le gouvernement puisse également se donner les moyens de trouver une solution à cette revendication, mais dans la mesure où cela relève de l'impossible pour le moment, bon, on va essayer de la renvoyer à de meilleurs moments.
Le bulletin d'information RFM 9h06, l'énergie, nous en venons. La Sénélec, la Société nationale d'électricité, va solder ses dettes de 34 milliards de francs CFA, dette estimée donc à 34 milliards de francs CFA. C'est grâce à une convention signée avec la Banque Atlantique et le Fonds de soutien à l'énergie. Ce montant va permettre de régler les dettes que Sénélec doit à ITOC, dette à ITOC estimée à 24 milliards de francs CFA. Et l'autre dette que la Sénélec doit payer concerne la SAR, la Société africaine de raffinage, à qui la Sénélec doit 10 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie, Karim Ouad, est fils du président de la République, en question ce matin dans la presse après les graves accusations contre lui et son père, le président Ouad. Accusations venant de Saïf al-Islam, fils du colonel Kadhafi de Libye. Il a déclaré dans un journal français que le président Ouad et son fils ont reçu 13 milliards de francs CFA de la part du Qatar, ce qui leur a permis de se mettre contre Kadhafi et de soutenir les rebelles libyens. Le condensé de cette sortie de Saïf al-Islam, Jean Marron.
Saïf al-Islam, le fils du colonel Kadhafi, porte de graves accusations contre le président Ouad. Il souligne dans un entretien publié dans Le Monde que le président sénégalais a reçu 20 millions d'euros, soit près de 12 milliards de francs CFA, au bénéfice de Karim Ouad. Saïf al-Islam précise que l'argent a été payé par le Qatar. Pourtant, le président sénégalais a soutenu avant cette révélation qu'il n'a jamais reçu de l'argent du colonel Kadhafi. Mieux, Saïf al-Islam considère beaucoup de chefs d'État africains comme des valets de la France. Avec la probable chute du colonel Kadhafi, des scandales risquent d'éclabousser beaucoup de chefs d'État africains.
Le journal L'Observateur révèle ce matin que le Qatar va apporter des précisions après ces accusations de Saïf al-Islam. Nous restons en Libye. L'avocat de Kadhafi conteste le mandat d'arrêt international décerné contre le guide libyen et ses alliés. Selon maître Marcel Tchetchaldi, j'espère que j'ai bien prononcé Marianne, alors cet avocat de Kadhafi demande plutôt au procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, de revoir sa copie parce qu'il a violé la loi sur la légalité de son enquête. Maître Tchetchaldi, joint par Alassane Samba Diop.
Cette enquête n'est ni faite ni à faire. Voilà une enquête qui est faite en fraude et en violation des droits internationalement reconnus en droit. Lorsqu'une poursuite est engagée, vous avez un grand principe, le principe de contradictoire. Vous devez d'abord informer la partie que vous entendez poursuivre de la poursuite que vous allez engager, d'une part, et d'autre part, vous devez lui communiquer les éléments à charge que vous auriez pu retenir contre elle afin qu'elle puisse les discuter. Là, il n'en a rien été. Monsieur Moreno fait son enquête dans l'opacité la plus totale. On ne sait pas comment les témoins ou les prétendues victimes ont pu être entendus, quand, comment, par qui. Est-ce que le degré de fiabilité de leur témoignage a été évalué ? On n'en sait rien. Est-ce que les conditions dans lesquelles ces gens-là ont été amenés à rencontrer les enquêteurs de Monsieur Moreno, s'il y en a eu ? Parce que même ça, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas non plus si dans le cadre d'un procès, on amène un témoin qui vient témoigner à charge, à décharge vous concernant, tout simplement parce que c'est quelqu'un que vous avez traîné par la main, parce qu'il s'agissait d'un de vos amis, d'un de vos parents ou de quelqu'un que vous avez sous loyer, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez lui faire dire. Eh bien, c'est ça que je reproche à l'enquête menée par M. Moreno. Il n'y a pas un État démocratique qui accepterait qu'une poursuite soit engagée dans des conditions d'opacité aussi profondes que celles qui a entouré son enquête.
Merci de rester sur RFM. Les programmes continuent. Bonne journée.